Transformer l'homme dans le but d'améliorer ses performances physiques et mentales, c'est le but des transhumanistes. Et en faisant converger les biotechnologies, l'informatique, les nanos, les neurosciences, le transhumanisme a tous les outils en main pour permettre à l'homme d'accéder à la perfection, voire à l'immortalité. Mais qui sont donc les transhumanistes? Dans quel domaine peut-on améliorer justement les capacités humaines? Et quelles sont les questions éthiques posées par ce courant de pensée? Eh bien, c'est le dossier aujourd'hui dans la Tête au Carré, en partenariat avec le Forum Sciences, Recherche et Société qui va se dérouler le 28 mai prochain au CNAM à Paris. Et puis une découverte majeure chez les poissons, et cette découverte est à la une de la science aujourd'hui. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Un poisson à sang chaud, ça vous dit quelque chose?
Pas vraiment.
Certainement pas, il n'en existait pas avant que des chercheurs américains en découvrent un. Le premier, il s'appelle l'emprise Gutatus, ou saumon des dieux, et on en parle dans un instant pour la une.
Et c'est Violaine Ballet qui réalise cette Tête au Carré, préparée aujourd'hui par Nassim Chik.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le transhumanisme, c'est donc dans quelques minutes le dossier de l'émission avec mes invités en studio, Sophie Kouan, Didier Cornel et Jean-Michel Beignet. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et puis par téléphone depuis la Croatie, Miroslav Radman, bonjour à vous.
Bonjour.
Sophie Kouan, êtes-vous une journaliste transhumaniste?
Non, pas vraiment.
Non.
Même si la technologie, les évolutions technologiques m'intéressent, voire me passionnent, j'aime l'idée que la technologie reste en dehors de mon organisme. L'être humain est sans doute perfectible, mais je préfère réfléchir à une perfection via la philosophie et la réflexion plutôt qu'en intégrant des machines version cyborg.
Didier Cornel, êtes-vous un expert de la longévité transhumaniste? Oh oui, hein, ça sent le transhumanisme ça, non?
Oui, j'utilise aussi le terme technoprogressiste, donc les progressions technologiques qui sont utiles pour les citoyens, c'est ce en faveur de quoi nous poussons à l'AFT Technoprog, en étant conscient des risques dont on va certainement discuter aujourd'hui, et comme tous les technoprogressistes, l'objectif premier, c'est ce qui permet de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé, le cas échéant, sans limitation de durée, sans vieillissement.
Voilà, donc ça s'appelle l'immortalité en gros. Hein. Jean-Michel Beignet, seriez-vous un philosophe transhumaniste?
Non, je ne suis pas transhumaniste, mais je débat depuis un certain temps avec eux, et ils m'ont un peu obligé à choisir un camp. Hein, au sein des transhumanistes, il y a ceux qui se découvrent plutôt techno-transgressifs, comme ils disent. Ils se servent de la technique pour dépasser la nature. Et puis, les autres, les bioconservateurs, qui sont censés vouloir conserver la vie. Or, je me reconnais plutôt comme bioconservateur, à condition qu'on précise bien que ce que je préserve, ça n'est pas une vie figée, mais c'est au contraire le pouvoir de transformation indéfini qu'il y a dans la vie, quand on ne se met pas en tête de vouloir la programmer techniquement.
Un philosophe bioconservateur, c'est la première fois qu'on en reçoit dans la Tête au Carré. Et vous, Miroslav Radman, êtes-vous un professeur de biologie transhumaniste?
Non, je ne crois pas transhumaniste parce que les nouveautés font peur et les nouveaux mots font peur. Mais si l'utilisation des lunettes, d'appareils auditifs, les stimulateurs cardiaques, c'est du transhumanisme, alors je suis transhumaniste.
Oui, mais l'immortalité vous intéresse aussi quand même?
Absolument, surtout pour moi-même, oui.
Voilà. Et pour les autres aussi un petit peu, on va en parler avec vous. Ce sera le thème de cette émission pour comprendre un peu ce qui se cache derrière cette étiquette transhumaniste qui ressemble d'ailleurs un peu à une nébuleuse d'idées. Les auditeurs nous rejoignent avec les questions et les messages. Et à la une de la science aujourd'hui, la découverte du premier poisson à sang chaud, le Lampris gutatus, ou encore saumon des dieux, ou encore opa. Eh bien, c'est un gros poisson carnassier de la famille des poissons lune qui vit dans les eaux froides, profondes et peu éclairées. Et une équipe de chercheurs américains vient de publier dans la revue Science une analyse physiologique qui a de quoi intriguer les spécialistes. Bonjour Gilles Boeuf.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes biologiste marin, président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors vous avez, comme nous tous, découvert cette publication en début de semaine. En quoi ce fameux opa ou saumon des dieux est-il si différent de tous les autres poissons?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 35 000 espèces de poissons aujourd'hui, et l'immense majorité à la température du milieu extérieur, donc de l'eau de mer qui les entoure. Hein. Tous les poissons qu'on connaît, sauf deux groupes qui étaient connus jusqu'à présent, qui sont les thons, 13 espèces de thon, et les 13, on va le voir, étaient particuliers, et quelques requins océaniques également, toujours des grands poissons. Et on montrait en fait que quand on fait une mesure de la température interne, différents tissus, on mesurait la température de l'œil, du cerveau, des muscles, du foie, du tube digestif, ils n'avaient pas la température de l'homme mère exactement. Le record qui était connu, c'était un listao, un petit thon, un skipjack, qui une fois avait été mesuré 21 degrés plus chaud que l'homme mère qui l'entourait.
Ah oui.
Donc toute la légende était partie des animaux, poissons qui pouvaient commencer à thermoréguler. Et là, celui-ci est particulier parce qu'il est encore plus performant que ces 13 espèces de thon ou que ces quelques requins. Il y a aussi les marlins et les spadons.
Alors pourquoi il a battu tout le monde à plate couture, celui-là?
Oui. Plate couture, je ne sais pas, parce que j'ai lu le papier rapidement tout à l'heure. Bon, dire l'appeler poisson à son chaud, c'est un peu exagéré. Comment est-ce qu'on met ça en évidence, hein? On avait fait une manip à Hawaï en 79, où dans une grande piscine, on avait mis un thon, un poisson ordinaire et un dauphin. Et le plus vite possible, on avait baissé la température du bassin de 26 degrés à 16 degrés, en mesurant les températures dans le dauphin, dans le poisson qui était un poisson perroquet, et dans le thon. Et on avait montré que le poisson perroquet, comme tous les poissons classiques, suivait exactement les fluctuations du milieu extérieur, il passait de 26 à 16, que le dauphin, il bougeait pas, il restait à 35, et que le thon était intermédiaire. Il partait pas de 26, mais de 24, et il finissait pas à 16, et il finissait, par exemple, à 18. Alors, ce qui montre sur ce poisson particulier, c'est que lui, il est capable de mêmes performances, encore en plus fort, et surtout que c'est un poisson qui descend assez bas dans l'océan, à des profondeurs où la température est très basse. Température où ne vont pas les thons, presque pratiquement jamais. Et ce qui montre aussi, c'est qu'il a un muscle, comme le fait le thon, d'ailleurs, quand on mange du thon, il est très différent des autres poissons. Sa jambe est très rouge, ce qui est le cas de ce saumon des dieux, hein. Oui. On comparait au saumon parce qu'il avait une couleur très très rouge, très foncée aussi. Ce poisson a un muscle incroyablement capable de produire de la chaleur. Chaque millimètre cube de muscle fait mieux que des animaux supérieurs, qui thermorégulent, eux. Et en plus, il sait conserver cette chaleur. Parce que faire de la chaleur, c'est une première performance. Ça, on peut faire sur un effort physique violent. Mais ensuite, on la perd. Et donc, il a mis au point des systèmes, comme en ont les thons aussi, qu'on appelle des échangeurs de chaleur à contre-courant, que nous, humains, nous avons dans les poignets ou dans les chevilles, et qui permettent, lorsque le milieu est froid, d'éviter au sang chaud d'aller à la périphérie du corps. Et au contraire, lorsque le milieu est chaud, de libérer toute cette énergie à la périphérie du corps par des systèmes, effectivement, de petites veines ou d'artères qui se ferment ou s'ouvrent. Ce qu'on appelle ces fameux échangeurs de chaleur à contre-courant. Et cet OPA, lui, en a partout, alors que les thons, on avait en amont de la branchie. Et les thons tropicaux, on avait que dans quelques endroits, les thons qui allaient vers des eaux plus froides, par exemple, comme l'albacore ou le thon rouge, en avaient plus. Mais celui-ci est encore plus performant.
Oui, et OPA, c'est son nom hawaïen, d'ailleurs, hein, Axel. Hein.
Et qu'est-ce que ça lui permet de faire de spécial, de pouvoir conserver de cette chaleur?
Alors, c'est très clair qu'il y a une réaction immédiate, une relation immédiate entre la vitesse de nage et la température constante qui est maintenue.
Il va vite, ce poisson?
La contraction musculaire, hein, la contraction du muscle est très dépendante de la température extérieure. Donc, il peut nager beaucoup plus vite.
Et donc, il chasse, hein, mieux,
il
c'est ça?
Il échappe à des prédateurs, au lieu de capturer des proies. Et surtout, il va plus, dans des eaux plus froides que ne le faisaient les thons. Si les thons nagent si vite, c'est parce qu'ils ont commencé en partie à thermoréguler. Mais on peut pas dire que c'est un poisson à son chaud. Il est quand même sensible aux fluctuations de l'environnement. C'est pas un dauphin, hein. La température bouge quand même en relation avec l'extérieur. Mais moins, beaucoup, beaucoup moins que sur les autres poissons, c'est vrai.
Donc, Gilles Boeuf, vous contestez un peu le titre qui a été répandu dans les médias du monde entier, hein, quand même, en disant que c'est le premier poisson à son chaud jamais découvert.
Oui, c'est vrai. Journalistiquement, je ne vais pas le critiquer. C'est vrai, mais dans le détail, c'est quand même pas un dauphin. Hein.
Oui, absolument. Alors, son secret, paraît-il, est dans les branchies, hein, plus particulièrement, oui. C'est vrai?
Oui. Oui, parce que vous savez, chez les poissons, la grande surface d'échange, c'est la branchie. Hein, et c'est le gros problème des poissons, parce que plus elle est grande, plus ils peuvent aller chercher de l'oxygène, mais plus elle est grande, plus en même temps, ils ont des problèmes de régulation de l'eau et des sels, d'échange entre le sang et l'eau de mer à l'extérieur. Et donc, il a des branchies extraordinairement performantes dans la capacité à se protéger des pertes de chaleur. C'est au niveau de la branchie que les poissons ordinaires qui font de la chaleur la perdent. Lui, il arrive à faire que sa branchie ne perd pas cette chaleur à l'extérieur une fois qu'il l'a produite dans ses muscles. Il a également une caractéristique, c'est qu'il produit de la chaleur également par des mouvements très particuliers de ses nageoires.
Vous pensez qu'on pourra en trouver encore d'autres, des poissons qui se réchauffent?
Pourquoi pas? Vous savez, moi, en biologie, il y a longtemps que j'ai dit que des choses étaient impossibles, non. Vous savez, la biologie, c'est vraiment la science par définition. On trouve toujours des exemples qui viennent confirmer les règles, comme on dit. Donc, moi, je reste tout à fait ouvert à des découvertes extraordinaires de performances du vivant. Dans leur comportement et dans leur physiologie, les animaux sont exceptionnels. Rappelez-vous ce petit moineau récemment qu'on a découvert comme étant capable de cuire les asticots qu'il avait attrapés pour nourrir ses petits sur le capot d'une voiture qui avait fait 100 km. Et les petits préféraient nettement les asticots cuits que les crus.
Ouais. Et ce poisson, il ressemble à quoi, Gilles Boeuf? Parce qu'on a mis sa photo sur la page Facebook de La Tête au Carreau.
Il est très beau. Il est bleu foncé et rouge, hein. Et souvent, souvent on le trouve avec les thons, d'ailleurs. On le pêche souvent avec. C'est un poisson assez rare qu'on voit pas souvent. Mm-hmm. Qui est vraiment très, très, très beau poisson, très joli. Méfions-nous parce que dans la littérature, j'ai vu cette semaine dans les articles, ils ont mis une image de poisson lune. C'est pas du tout un poisson lune, hein. C'est l'opale, en frise opale, qui est un animal très intéressant. Déjà dans son aspect, puis maintenant on apprend qu'en plus il est très performant en capacité à thermoréguler mieux que les autres poissons.
Et grâce à lui, donc on parle de biologie marine, c'est pas mal finalement.
Voilà, c'est toujours très bien, il faut toujours en parler. D'ailleurs on parle de biologie marine parce que si on n'en parle pas, on oublie la biologie marine.
Vous voyez, voilà. Gilles Boeuf, en ce moment il y a une exposition justement sur les grilles du Jardin des Plantes autour de l'eau.
Oui, autour du littoral. En fait, on fête l'anniversaire du Conservatoire du Littoral. Et c'est Frédéric Larrey qui déjà nous a donné de tellement belles images du monde océanique, qui a fait une série de photos sur les grilles du Jardin des Plantes, du Jardin Alpin, avec de merveilleuses photos des littoraux français. Mmh. Pas forcément des images de sites que l'on connaît, à la fois en métropole et en Outre-mer. Vraiment exposition à voir, on a un littoral fabuleux. Et on fera le 4 juin prochain, à Paris, à l'Université Pierre et Marie Curie, une conférence climat-littoral. Et c'est là que sur le littoral se produit le plus la remontée du niveau de l'océan, bien sûr.
Merci beaucoup, Gilles Boeuf, pour vos explications. On a tout compris grâce à vous sur le saumon des dieux. Merci beaucoup.
Au plaisir.
Et bonne journée. À très bientôt. Et puis Axel, on retrouve la photo de ce poisson sur la page Facebook de La Tête au Carré.
Et le podcast sur le site franceinter.fr.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les cloportes seraient des combattants du réchauffement climatique. Ces petits crustacés terrestres sont en effet particulièrement friands de petits microbes qui ont la particularité de libérer le dioxyde de carbone des sols lorsque la température augmente. Le nombre de ces microbes augmente aussi, et donc la quantité de CO2 libérée dans l'atmosphère. Mais des chercheurs américains ont remarqué qu'en ajoutant des cloportes à ces sols, ils parvenaient à limiter efficacement le CO2 qui s'en échappe. En dévorant les microbes en grand nombre, les cloportes ralentissent la libération du CO2 et facilitent son intégration durable dans les sols. Le panda raffole du bambou, mais son intestin visiblement beaucoup moins. Connu pour être très friand des jeunes pousses de bambou, ce proche cousin des ours a pourtant une flore intestinale peu évoluée et encore très proche de celle des carnivores. C'est ce qu'affirment des chercheurs chinois qui ont analysé les crottes de 45 pandas. Leur système digestif ne contient que très peu d'enzymes capables de briser la cellulose des plantes pour en extraire les sucres. Une seule solution s'impose donc pour survivre, manger beaucoup de bambou. Et puis il n'a que 17 ans, mais il a déjà créé son entreprise, une ONG dans le domaine de l'environnement et développé plusieurs prototypes révolutionnaires. Raymond Wang, ce jeune génie canadien, vient de gagner le Gordon Award, qui est considéré comme le Nobel des ados. Son projet propose un système de purification de l'air des cabines d'avion, permettant de réduire sensiblement l'inhalation des pathogènes par les passagers. Il vient d'empocher $75,000 et vous allez donc entendre certainement parler dans les prochaines années de Raymond Wang. Mais qui sont les transhumanistes? C'est le dossier de La Tête au Carré dans un instant. Words are in my head, but I can't enunciate them clearly. Headphones on your head, they prevent a chance to even try. Some might find me borderline attractive from afar, but afar is not where I can stay, and there you are. Though I want you, I know I haven't a chance, still I want you. We'll be right back. FFS sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
Voilà un homme augmenté qui valait 3 milliards et bel exemple justement d'un homme cyborg, hein, on pourrait dire ça, Jean-Michel Beignet, hein, parce que le terme bio-ionique n'est pas vraiment employé aujourd'hui.
Oui, il est un peu suranné.
Steve Austin, transhumaniste, en tout cas un des effets, peut-être une incarnation du transhumanisme. Qu'est-ce qui se cache derrière cette pensée? C'est la question de notre dossier en partenariat avec le magazine La Recherche. Mes invités donc pour parler avec vous de l'amélioration des capacités humaines et bien sûr des questions que ça suscite. Sophie Kwan, donc rédactrice en chef du magazine La Recherche, dont c'est le 500e numéro ce mois-ci.
500e qui sort demain.
Ouais. Jean-Michel Beignet, vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris 4 Sorbonne. Didier Cornel, vous êtes vice-président de l'association Technoprog, qui est la principale organisation francophone consacrée au transhumanisme. Et puis par téléphone, depuis la Croatie, Miroslav Radman, professeur de biologie cellulaire à Paris Descartes et directeur de l'Institut méditerranéen pour les sciences de la vie à Split, en Croatie. Les auditeurs nous rejoignent avec les questions, les messages qui arrivent déjà nombreux sur le site de l'émission. Sophie Kwan, donc jeudi 28 mai, ce sera la 7e édition du Forum Sciences, Recherche et Société. Ce sera au CNAM à Paris.
C'est ça.
Avec le thème de cette année, cultivons le futur.
Oui, tout à fait. Plein de questions liées au futur et liées au présent, des questions à cheval entre la science et la société. L'idée, c'est vraiment que le public qui vient écouter tous nos conférenciers puisse faire le lien entre ce que les scientifiques réalisent et la façon dont ça change notre quotidien ou dont ça pose des questions sur notre quotidien.
L'entrée est libre, hein, donc au Conservatoire national des arts et métiers.
Gratuite, il faut quand même s'inscrire à l'avance.
Et la technologie va-t-elle changer la nature humaine? Ben, c'est le thème qui nous intéressait justement aujourd'hui, ce sera dès 9h30, hein, le 28 mai prochain, et c'est vous qui allez animer cette rencontre.
Avec Annie Kahn du journal Le Monde, l'idée c'est vraiment de se poser ces questions-là avec un biologiste, avec un philosophe, Monsieur Beignet, pendant une heure et demie, et les publics, là aussi, pourra poser des questions.
Laurent Alexandre sera présent, le président de DNA Vision, le professeur François Berger et Nicolas Demassieu, directeur d'Orange Labs Recherche.
Tout à fait.
Forum-srs.com, c'est pour s'inscrire et pour découvrir
12 conférences en tout, dont une sur les climato-sceptiques et une sur les écrans et les enfants.
Il faut les voir, il y aura beaucoup de choses le 28 mai prochain. Ce terme de transhumanisme, justement, alors c'est vrai, quand on étudie un petit peu la question, c'est un mot qui semble plus utilisé, plus visible et plus assumé aussi par les anglo-saxons que par les français. Miroslav Radman, ça sent encore un peu le soufre en France, le transhumanisme?
Oui, on a l'impression, au moins au cours des séminaires et des discussions, que les gens ont peur des changements, inclus le changement qu'on peut appeler le transhumanisme.
Qu'est-ce qui se cache pour vous alors derrière ce mot exactement, pour qu'on essaie d'y voir un petit peu plus clair dès le départ?
Mais oui, on a inventé un mot transhumanisme que j'imagine peut faire peur. Or, comme j'ai dit, un stimulateur cardiaque, appareil auditif, tout ça sont des éléments transhumanistes entre guillemets, mais avant de les appeler comme ça, ça faisait pas peur. Et donc, ce qui m'intéresse, pour moi le plus intéressant, c'est que ce thème de transhumanisme est une sonde diagnostique de l'état d'esprit. Pourquoi en France on a peur? Pourquoi en Californie on est ravi? Mm-hmm. Pourquoi en Angleterre on est permissive à des nouveautés? Voilà, ça c'est intéressant comme vraiment comme diagnostic d'état d'esprit qui va se répercuter bien sûr sur toute autre activité humaine et croissance, j'imagine, économique aussi.
Didier Cornel, c'est vrai que le transhumanisme a un foyer très actif en Californie, dans la Silicon Valley en particulier.
Dans le monde anglo-saxon en général. Le mot transhumanisme, c'est d'abord le mot humanisme, plus, disons, le choix des progressions technologiques qui sont les plus utiles au développement de cet humanisme. Et en fait, on fait du transhumanisme sans le savoir depuis l'aube de l'humanité.
Hein, ah
la
bon
première transgression, c'est...
Les hommes préhistoriques faisaient du
transhumanisme. La première transgression, c'est le feu ah oui. nous a changé fondamentalement et on ne sait plus fonctionner. Et puis la deuxième transgression fondamentale, c'est l'écriture. Et l'écriture, c'est un choix, l'écriture. Socrate a toujours refusé d'utiliser l'écriture dans le cadre de la philosophie parce qu'il disait ça permet de ça diminue les capacités de raisonnement. Et en certaines mesures, il avait raison. Tout choix technologique comprend des avantages et des inconvénients. Et tous les choix technologiques qu'on a fait jusqu'ici sont globalement positifs pour l'humanité, mais ils comprennent également des risques. Et nous pensons que parmi les choix qui peuvent se faire dans un avenir proche, c'est tout ce qui permet particulièrement de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Mais il y a aussi toutes les questions par rapport à l'empathie, toutes les questions par rapport à la non-violence, par rapport à l'automatisation dans le cadre du travail. Est-ce que dans la mesure où on peut permettre aux citoyens de supprimer les tâches dans le cadre travail actuellement automatisable, les tâches qui n'ont pas d'intérêt et qui ne permettent pas un épanouissement, nous pensons que oui.
Oui, donc s'il y a vraiment quelque chose autour de l'autonomie aussi hein, de l'être humain qui est prépondérant dans le transhumanisme, Jean-Michel Beignet, hein, c'est ça, être autonome sur sa santé, sur son corps.
Oui, bah ça c'est effectivement l'argument toujours mis en avant, mais là je rejoindrai Didier, depuis que la technique existe, effectivement, on a toujours pensé la technique comme une manière pour les hommes de se rendre autonomes par rapport au déterminisme naturel. Ça, j'en suis bien d'accord. Cela étant, là où je ne suis pas d'accord, c'est pour diluer le concept de transhumanisme de sorte qu'il n'ait plus d'angle, alors que je crois que le transhumanisme, il désigne quelque chose de bien précis
aujourd'hui.
Et c'est
quoi, alors ?
Le transhumanisme, je crois que c'est la volonté de ménager une transition vers autre chose que l'humain via ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme augmenté. Mmh. Hein. La technique, on peut s'en servir de deux manières. On peut s'en servir pour prolonger la nature ou pour la réfuter. Hein, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Je crois que l'humanisme occidental, percevait la technique comme une manière de prolonger la nature, d'obtenir de la nature ce qu'elle recélait. Hein, et de ce point de vue-là, ces humanistes étaient des bioconservateurs. Hein, mais aujourd'hui...
Donc c'est une négation de la nature pour vous, le transhumanisme
aujourd'hui. Oui,
c'est s'affranchir totalement.
S'affranchir de la nature, artificialiser au maximum la nature, se débarrasser quelquefois brutalement de ce qu'on appelle la viande, c'est-à-dire le corps. Hein, vous avez ce lexique chez bon nombre de transhumanistes. Donc c'est vraiment l'idée que réaliser l'humain, c'est le réfuter. Réaliser l'humain, c'est le débarrasser de tout ce qui le leste en tant qu'humain. Le débarrasser de la naissance, de la souffrance, du vieillissement, de la mort.
Alors, Miroslav Radman, je m'adresse aux généticiens, aux biologistes. Vous êtes d'accord avec cette idée de Jean-Michel Beignet sur cette autonomie, justement, par rapport à la nature?
Oui, ça fait parfaitement sens. Ça veut dire jusqu'à il y a peu de temps, on a évolué par l'évolution biologique, aveugle, très cruel souvent, mais on a considéré que c'est l'acte de Dieu, on n'avait pas de jugement. Tandis que maintenant que l'évolution biologique humaine a facilité, a permis l'évolution culturelle, qui est, elle, très rapide, l'idée d'avoir un feedback, un effet de l'évolution culturelle sur l'évolution biologique même, dans le sens de la constitution de durabilité des corps humains, ça c'est humain et c'est dirigé et ça fait peur. Car pour tout ce que le Dieu fait, ça veut dire le hasard, avec des dégâts incroyables, parce que les mutations sont au hasard, la vaste majorité de ces changements est punie les organismes. Très rares mutations s'avèrent positives ou désirables dans des conditions données. Et maintenant, le fait d'intervenir avec cette accélération de l'évolution culturelle, d'inclure la médecine, dont on se réjouit, j'imagine, mais d'aller au-delà, pas seulement dans le maintien des fonctions biologiques, mais aussi à l'augmentation des fonctions biologiques, ça fait peur. Ça fait peur sur le continent européen, et ça c'est un défi, ça fait pas peur en Californie.
Oui. Voilà. Et ça vous fait pas peur à vous non plus d'ailleurs, Miroslav Radman.
Ça me fait pas peur parce que j'adore l'aventure. Je crois que pour moi, la vie sans l'aventure est ennuyeuse. Et puis, comme scientifique, vous savez, on pense toujours qu'on fait la science pour rendre la vie plus facile, plus belle, etc. Je suis sûr que c'est la découverte qui crée le besoin, et pas le vice-versa. C'est pas parce qu'on a besoin de quelque chose que les scientifiques vont vous découvrir sur un menu des désirs comme celle de la communauté européenne. Je ne crois pas du tout. Enfin, je crois que ça ne marche pas. Donc, il faut attendre la découverte. Elle est au hasard. Elle arrive au hasard et elle crée le besoin. En Moyen Âge, on n'avait pas besoin d'électricité quand on avait aucune idée qu'est-ce que c'est l'électricité.
On parlera de vos recherches concrètement.
Là, j'adore garder l'esprit ouvert et je cherche des surprises. Oui. Ce qui m'intéresse dans la science, c'est pas de prouver que quelqu'un a raison ou que ce soit moi ou pas raison, mais finalement, je cherche les surprises. Or, les surprises, vous savez, on les reconnaît par la nécessité de créer un monde nouveau, radioactivité, antibiotiques, etc. Donc, c'est cette passion pour les surprises qui tient mon esprit ouvert. Je n'ai pas peur.
Bon, en tout cas, vous correspondez bien, Miroslav Radman, à la définition qu'on peut faire des transhumanistes, qui souvent se présentent comme des libres penseurs, et c'est bien ce que vous décrivez en ce moment au micro de La Tête au Carré. On va se retrouver dans un instant, il y a beaucoup de messages des auditeurs, on va pouvoir en discuter dans quelques minutes avec vous autour de ce thème que vous pourrez poursuivre donc le 28 mai prochain. Ce sera à l'occasion du forum Science, Recherche et Société au CNAM avec notre partenaire La Recherche aujourd'hui. Bon après-midi sur France Inter avec Come Away With Me et la voix de Norah Jones.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. And on a cloudy day, in fields where the yellow grass grows knee high, so won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving you.
Transhumanisme dans la tête au carré avec le philosophe Jean-Michel Beignet, le professeur de biologie cellulaire Miroslav Radman, le président, vice-président de l'association Technoprog Didier Cornel et Sophie Kwan, rédactrice en chef du magazine La Recherche. François sur franceinter.fr demande, est-ce qu'il est pertinent de considérer le mouvement transhumaniste comme une nouvelle religion, Jean-Michel Beignet? Qu'est-ce que c'est? C'est une institution? C'est
un courant de pensée? C'est un courant de pensée, c'est un mouvement d'opinion qui s'est aggloméré ça et là à travers des associations qui ont chacune leur manifeste, leurs idéaux.
Donc c'est plutôt bien organisé?
Non, c'est pas bien organisé. Il y a des mouvements comme ça de dominants dans chacun des grands pays. Alors religion, pour répondre à votre auditeur, si on entend par religion minimum, normalement, ce qui réunit une communauté à travers un certain nombre d'articles de foi, je dirais non, le transhumanisme n'est pas une religion.
D'abord, c'est plutôt des individus agnostiques, athées, ils se revendiquent comme tels.
Oui, c'est plutôt cela, de manière dominante, c'est cela. Et c'est un mouvement qui conforte plutôt un hyper-individualisme plutôt qu'une communauté.
Didier Cornel, qu'est-ce que vous faites dans votre association, dites donc?
Donc alors, je voudrais réagir immédiatement par rapport à l'hyper-individualisme. Évidemment que ça n'est pas le cas pour la plupart des transhumanismes, mais particulièrement pas en France. D'ailleurs, donc Monsieur Beignet, vous avez déjà dit dans des débats antérieurs que, en fait, effectivement, les transhumanistes français étaient plus pour la solidarité. Finalement, je ne sais pas ce que vous leur reprochez encore, mais on aura peut-être le temps. Donc, le transhumanisme, c'est un courant de pensée, ça n'est pas une religion, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de certitude. Et d'ailleurs, ça c'est peut-être la chose la plus importante. S'il y avait des certitudes, si le progrès était inscrit comme un fleuve, un long fleuve tranquille, il n'y aurait pas de nécessité de favoriser certaines progressions technologiques. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, on ne peut pas l'arrêter, mais on peut le canaliser.
De quoi s'occupe alors concrètement une association comme la vôtre pour qu'on comprenne aussi des domaines concrets?
Je dirais que l'objectif premier, c'est de permettre des débats dans une optique de choisir parmi les progressions technologiques celles qui sont les plus utiles à la collectivité. L'objectif qui est le mien, c'est de convaincre, notamment, moi je me situe politiquement fort à gauche, notamment ces courants de pensée-là, que c'est important qu'il y ait des progressions technologiques qui soient financées de manière publique, afin que, dès que possible, cela soit accessible à tous. Donc aujourd'hui, très concrètement, il y a 110 000 personnes dans le monde. Sur les 150 000 personnes qui vont mourir, il y a 110 000 personnes qui vont mourir de maladies liées au vieillissement. 110 000 personnes vont mourir dans le monde.
Dans le monde.
De maladies liées au vieillissement.
Vous êtes sûr de ce chiffre? Non, il y en a bien plus. Oui.
110 000 personnes par jour.
Ah, par jour, d'accord.
Aujourd'hui, oui, donc aujourd'hui.
Par jour.
Donc, décèdent. 7 personnes sur 10 dans le monde et 9 personnes sur 10 dans un pays comme la France meurent de maladies liées au vieillissement. Des maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies neurodégénératives. Quelque chose qu'en fait, si vous aviez le choix, vous ne souhaiteriez probablement pas à votre pire ennemi, particulièrement les maladies neurodégénératives, pour lesquelles il faudra des investissements tout à fait considérables pour éviter que la moitié des gens meurent de cela.
Donc il y a ce souci de la vie en bonne santé. Vie plus longue et en bonne santé.
Vie plus longue, en bonne santé, pour tous ceux qui le souhaitent. Parce qu'évidemment, il peut y avoir des gens, comme il y a les Amish aux États-Unis, qui refusent certains, mais beaucoup moins que ce qu'on pense, certains progrès technologiques, mmh. on peut imaginer que demain, des gens, M. Beignet par exemple, disent « moi je ne veux pas aller chez le médecin si j'ai un cancer ou une maladie neurodégénérative et que c'est curable ». C'est un choix, je pense, qui est respectable, même si j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui le feront. Mais enfin, c'est un choix qui est respectable. Par contre, ce qui n'est, à mon avis, pas respectable en termes de droits humains, le droit humain le plus fondamental étant le droit à la vie, ce qui n'est pas respectable, c'est de dire, si ça devient possible d'y arriver, ne le faisons pas parce qu'on pourrait passer des limites ou parce que, pour entendre l'argument que moi je trouve le plus... étrange parce que nous pourrions avoir dans 50 ans un mécanisme de surpopulation. Et donc, est-ce que vous diriez à votre père, papa, il est temps que tu meurs parce que dans 50 ans, nous pourrions avoir des problèmes.
Mais Saito nous dit ceci, l'immortalité, pourquoi faire? Quelle place alors pour nos enfants, Jean-Michel Beignet?
Oui, bon, c'est un problème, là je serais d'accord quand même avec Dini Cornell pour dire que c'est un problème finalement technique. Certains transhumanistes qui ont posé la question répondent, or... on va relancer le voyage dans l'espace, on va aménager des exoplanètes, on va créer des planètes creuses. Le problème de la surpopulation, finalement, n'est pas un vrai problème. Je reviens quand même sur la description que vous avez faite de l'Association française du transhumanisme. Pour moi, vous êtes tout à fait sympathique et respectable. Vous êtes quelque chose comme vous représentez pour moi un hyper-humanisme. Vous êtes dans l'hyper-humanisme plus que dans le transhumanisme. Parce qu'il n'y a pas chez vous ce que je trouve quand même chez d'autres transhumanistes, notamment californiens, l'idée selon laquelle il faudrait finalement préparer la mutation d'une nouvelle espèce. Hein. Il n'y a jamais eu ce langage chez vous, alors qu'il est tenu majoritairement dans les mouvements transhumanistes américains.
On verra en tout cas dans un instant avec vous, Miroslav Radman, comment on peut aller au-delà de nos limites biologiques, hein, puisque c'est une de vos quêtes, travailler justement sur le prolongement de la vie humaine. Et puis au cœur du transhumanisme, donc, il y a cette idée de la santé, de l'autonomie du corps et la liberté du choix procréatif. Pour en parler, extrait du film La Cité des Enfants Perdus.
Il était une fois un inventeur si doué pour donner la vie, si doué qu'on ne saurait dire...
Ah, un conte de fées. Je sens déjà mes larmes perler.
N'ayant point de femme ni d'enfants, il décida de les créer de ses alambics. Il commença par son épouse et lui donna pour don qu'elle serait la plus belle des princesses du monde. Hélas, une mauvaise fée génétique jeta un sort à l'inventeur tant et si bien que la princesse ne naquit pas plus haute que 3 pouces. Il clona ensuite 6 beaux enfants à son image, fidèles et laborieux, si semblables qu'on les eut confondus. Mais le sort le trompa de nouveau et la maladie du sommeil les affligea. Comme il lui fallait un confident, il fit croître dans un aquarium une pauvre cervelle pleine de migraines. Et, enfin, il créa son chef-d'œuvre, plus intelligent que le plus intelligent des hommes qu'on pût trouver. Hélas, l'inventeur se trompa encore et lui aussi eut un défaut. Jamais il ne connut le rêve, pas le moindre petit songe. Et il n'est pas possible d'imaginer combien il vieillissait vite tant qu'il était malheureux.
Voilà, on voit dans cet extrait, Miroslav Radman, que la technique de clonage n'est quand même pas très simple à maîtriser, hein, visiblement. Il y a encore des obstacles pour les scientifiques.
Oh, pour le clonage, oui. Mais, et, en plus, je m'intéresse pas tellement sur le clonage, parce que faire de multiples de la même chose, du même organisme, ça... Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que c'est dans la diversité, notamment dans la biodiversité, dans la diversité humaine, qui se trouve la richesse et même une garantie de survie à très long terme. C'est comme ça que l'évolution marche. Moi-même, je ne suis pas intéressé ni compétent non plus à un transhumanisme non biologique, comme Raymond Kurzweil en Californie. Mm-hmm. Ce qui m'intéresse, c'est, je suis beaucoup moins courageux ou ambitieux, je voudrais simplement faire au niveau des maladies dégénératives ce que l'hygiène, la vaccination et les antibiotiques ont fait sur la mortalité des maladies infectieuses. L'effet a été qu'à la naissance, l'espérance de vie a doublé par quasi-élimination, disons, des tuberculoses en Europe au moins, et des maladies virales transmissibles, etc. Et donc, si on pouvait faire la même chose par prévention et cure sur les maladies dégénératives, je crois que la productivité des humains au-delà de 60 ans, s'ils pouvaient rester jeunes biologiquement jusqu'à 100 ans, leur productivité devait augmenter, continuer à augmenter d'une façon probablement exponentielle. Et puis de diminuer les souffrances qui sont liées à des maladies neurodégénératives, cancer, etc. Et je ne vois aucun mal, je ne vois personne qui dirait que je préfère d'avoir le cancer et de mourir à 60 ans plutôt que de ne pas l'avoir et de mourir à 100 ans.
Mais vous êtes trop modeste, hein, Miroslav Radman, parce qu'on voit bien vos ambitions quand même.
C'est énorme, c'est énorme.
Qui sont énormes.
Savez,
on est d'accord.
Le succès de la pharmacopée contre les maladies infectieuses, c'était suite, et assez rapidement, suite à l'identification de la cause de cette maladie. C'était un virus spécifique, une bactérie spécifique. Or, nous ne connaissons pas du tout la cause du vieillissement. Je travaille là-dessus.
Eh bien, on en parle dans un instant. Miroslav Radman, ouais. On va en parler dans un instant. On va le décrire avec vous. On va juste marquer une petite pause avec Baden Baden et puis parler, bien sûr, avec nos autres invités pour répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr autour de cette question du transhumanisme. Baden Baden.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Allez, la suite, la fin de notre discussion sur le transhumanisme. Jean-Michel Beignet, la question de l'immortalité, elle est centrale pour vous dans ce courant de pensée ?
Ah, c'est une question qui est devenue centrale, ça m'a d'ailleurs beaucoup surpris, hein, de voir tout à coup le thème émerger, être pris en charge par les grands médias et devenir un sujet de conversation à peu près banal. Et bon, ce qui me paraît important, peut-être, je le dis brutalement, c'est de distinguer entre la volonté d'immortalité et le désir d'éternité. Moi qui fais profession de faire de la philosophie, je n'ai affaire qu'à des philosophes qui sont animés de ce désir d'éternité. Mmh. Mais ça n'est pas la volonté d'immortalité. Alors juste deux mots peut-être pour camper un petit peu les choses. Les Grecs avaient compris ça très très tôt. Les Grecs considéraient que être mortel, c'était le privilège des humains. Le privilège des humains. Les dieux étaient immortels, les animaux étaient immortels parce qu'ils n'avaient pas la conscience de la mort. Donc ils s'inscrivaient dans la chaîne des générations. Et les humains qui voulaient l'immortalité pensaient qu'ils pouvaient l'obtenir grâce au moins à trois choses. Les œuvres qu'ils pouvaient faire, les grands exploits, tels que la mythologie les rapporte, et les paroles. Mais la cassure a eu lieu avec Platon et ensuite avec le christianisme, avec saint Augustin, qui a considéré que finalement, ce que pouvait un homme recherchant l'immortalité, c'était au contraire se débarrasser de tout ce qu'il y a d'humain, trop humain en lui, c'est-à-dire d'animal, pour se tourner vers le ciel des idées, vers le monde de l'esprit. Et en réalité, l'éternité, elle est attachée à la vie spirituelle. À la vie intellectuelle d'une certaine façon, et donc il y a eu ce passage là de sorte que aujourd'hui, avec le retour en force du thème de l'immortalité, moi j'y vois quelque chose comme une espèce de réanimalisation de l'homme. L'homme se pense de plus en plus comme une bête qu'il faut sauver absolument, grâce à la science, grâce à la médecine, etc.
L'homme est en danger, Didier Cornel, par rapport à l'évolution. Est-ce que la disparition assurée, et donc il faut absolument trouver une tentative, une issue.
La question de l'immortalité, je préfère ce terme-là, immortalité, donc ne plus mourir de maladies liées au vieillissement, ne plus diminuer et même supprimer ces souffrances-là, elle est effectivement centrale. Et effectivement aussi, les Grecs se sont posés toutes les questions, mais les Grecs n'avaient pas encore le choix entre mourir et ne pas mourir de maladies liées au vieillissement. Donc nous avons de plus
Ulysse
en plus ce choix.
Ça. Ulysse a eu ça.
Ils les ont imaginés, et effectivement, dans les histoires, quand on n'a pas le choix, quand on a quelque chose qui est absolument insoutenable et qui est absolument inévitable, à savoir le vieillissement et la mort jusqu'ici, c'est logique qu'on se fasse une histoire pour le rendre soutenable. Ça peut être les religions, cela peut être la philosophie. Je voudrais dire une chose quand même très importante. La question de mélange entre le corps et la machine et tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, nous n'avons pas le temps d'en discuter ici, mais il est certain que chez beaucoup de transhumanistes, et particulièrement un des fondateurs qui est Nick Bostrom, la perception des risques liés à l'intelligence artificielle est très présente, et c'est probablement le débat qui divise le plus les transhumanistes aujourd'hui. C'est est-ce qu'il y a dans ce domaine-là des risques importants ou pas, et est-ce qu'il faut favoriser cette rencontre de l'homme et de la machine pour diminuer les risques et pour permettre plus de longévité ou pas. On n'a pas le temps de développer, mais c'est un débat qui divise. Ce qui unit, c'est la recherche de la mortalité, on va dire.
Miroslav Radman, ce courriel de François, il nous dit ceci: le transhumanisme tend à améliorer le corps humain par l'application des nouvelles technologies pour dépasser ses limites, mais pour cela, est-ce qu'on devra abandonner notre nature humaine avec nos sensations physiques et psychiques? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Difficile à dire, mais je crois que l'évolution humaine et même biologique est beaucoup plus influencée ou déterminée par la culture que par la biologie humaine de base. Donc la médecine, c'est l'effort à éviter la mort et la souffrance. Et nous parlons toujours de cela, comment éviter encore la mort et la souffrance, car tout être vivant, même les bactéries, qui sont encore vivants, ils sont là encore parce qu'ils ont fait tout l'effort à éviter la mort.
Est-ce que vous avez trouvé Miroslav Radman, justement,
ceux qui ne font pas plus l'effort à éviter la mort, ils ne seront plus là dans quelques millénaires.
Est-ce que vous avez trouvé la bactérie, justement, dans votre laboratoire, qui permettra d'aller au-delà de nos limites biologiques, pour reprendre le titre d'un livre que vous avez publié chez Plon, et qui nous permettrait d'aller beaucoup plus loin et de réparer toutes les maladies avec une seule et même bactérie?
Très, très brièvement, et encore complètement dans le domaine du familier et du normal et de la biologie de base, c'est en regardant la biodiversité vers les organismes qui sont résistants qui résistent la mort, vers des mammifères qui n'ont jamais le cancer. Donc, on trouve déjà ce qu'on veut. Et on peut conclure de cette biodiversité, que ce soit la bactérie d'Aenococcus radiodurans ou rat-taupe ou les rotifères, on peut en faire la conclusion scientifique que, comme phénomène, la mort n'est pas indispensable et les maladies ne sont pas inévitables.
Sophie Cohen.
Il suffit de travailler sur l'application. Oui. Sur les humaines.
Alors, vous souhaitiez réagir, Sophie Cohen.
Oui, ce qui m'interpelle dans ce débat, c'est la question de la frontière la place de la frontière entre le chercheur et le transhumaniste. En fin de compte, le fait qu'un médecin ou un biologiste recherche un traitement contre les maladies neurodégénératives, contre le sida, c'est ce qui est tout à fait louable, n'en fait pas forcément quelqu'un de transhumaniste. Et dans le discours que j'entends chez les transhumanistes, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que si vous dites, moi le transhumanisme me fait peur, l'immortalité me fait peur, on vous rétorque, alors vous ne voulez pas soigner les maladies neurodégénératives. Ça me gêne.
Alors Didier Cornel, très vite, il nous reste à peine 2 minutes, et puis Miroslav Radman et Jean-Michel Beignet pour répondre à cette question. Et
pour répondre à cette question, le médecin qui dit « je veux lutter contre le cancer », tout le monde dit, et vous dites, c'est une bonne chose. Le médecin qui dit « je veux mettre fin aux maladies liées au vieillissement », le chercheur plutôt qui dit cela, vous dites « ah non, cela ne va pas ». Quelque part, je ne comprends pas, finalement, vous êtes d'accord qu'on doit pouvoir lutter, ce que fait la médecine depuis l'aube de la médecine, lutter contre les maladies, donc faire reculer la mort, mais vous dites il doit y avoir une sorte de limite. Je ne pense pas qu'il doit y avoir une sorte de limite, en tout cas je ne pense pas que pour ceux qui le souhaitent, il doit y avoir une sorte de limite, que si la mortalité devient impossible, c'est une bonne chose.
Allez, Miroslav Radman, très très vite s'il vous plaît, pour répondre et pour conclure.
Nous nous cassons la tête, je crois, d'une façon qui n'est pas nécessaire, d'anticiper le bonheur pour nos petits enfants à vivre 120 ans en bonne santé. Je crois que si on demandait aujourd'hui les femmes françaises qui vivent en moyenne 84 ans, est-ce que vous préférez de vivre comme une grand-grand-mère seulement 40 ans, qu'elles diraient tous non, je préfère vivre 80 ans. Et le jour où ça sera 160 ans, si on va le demander, elles vont dire non, je préfère de vivre 160 ans et pas seulement 80 ans.
Allez, Jean-Michel Beignet.
Les transhumanistes ont la logique comptable rivée au corps. On ne peut pas parler avec un transhumaniste tant qu'on nous balance des chiffres. Il faudra quand même un jour réfléchir à la différence entre l'homme augmenté et l'homme amélioré.
Allez, vous en discuterez le 28 mai.
Absolument.
Par exemple, pour ce débat Science, Recherche et Société au CNAM, il faut s'inscrire forum-srs.com. Miroslav Radman, merci beaucoup. Jean-Michel Beignet, vous avez publié L'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile chez Fayard. Didier Cornel, et si on arrêtait de vieillir, c'est aux éditions FIP et c'était en 2013. Et Sophie Cohen, le 500e numéro du magazine La Recherche. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Dans un instant, Affaire sensible, c'est quoi le thème aujourd'hui?
Avec un grand rendez-vous, si tant est qu'il en est de soi, de petit Klaus Barbie. Aujourd'hui, la traque, avec comme témoin et invité Beat Klarsfeld. Demain, le procès, avec comme témoin et invité Serge Klarsfeld.
À tout à l'heure.